Chapitre 34. Le troisième jour, Regina reparut enfin plus pâle et plus calme. En me revoyant dans le jardin, elle s'approcha de moi le doigt sur la bouche pour me dire par ce signe de ne jamais réveiller le nom dans son oreille. Elle parut profondément touchée et même attendrie de l'expression de tristesse et d'anxiété qui avait changé mon visage depuis ces 3 jours et ces 3 nuits. « Ne vous faites pas tant de chagrin pour moi, » me dit-elle en me pressant la main et en me regardant avec une expression de sollicitude et de confiance qui disait 100 000 choses indécises dans ses pensées. Sa main a arraché elle-même le trait de mon cœur. Je suis guérie. Sur le tombeau de Clotilde, ce n'était pas Clotilde que j'avais trouvé, c'était son fantôme. Ce fantôme s'est évanoui. Non, il n'était pas le frère de Clotilde, il avait ses traits, il n'avait pas son cœur. Puis, laissant retomber sa main et se retournant avec vivacité pour s'éloigner de moi et continuer son chemin vers le lac, « C'est vous qui auriez eu son cœur, » dit-elle plus bas. Le soir, elle me pria de la mener bien loin, se fatiguer dans la montagne, pour reprendre à force de lassitude un peu de sommeil. Je lui obéis. Nous marchâmes depuis 2 heures après-midi jusqu'à la nuit tombante dans les vignes, dans les ravins et sous les châtaigniers qui croissent en bouquets sur les pieds du Jura. Ses oncles, qui étaient arrivés à Genève, devaient venir la prendre le lendemain pour la ramener à Rome par la route du Valais et de Milan. Elle semblait vouloir prolonger le plus possible la dernière journée qui lui restait à passer avec moi. Elle était si jeune, si belle, si transpercée des rayons dorés du soleil, s'y incorporer avec ce cadre merveilleux du ciel, des bois, des eaux, dans lequel je la voyais m'éblouir et d'où j'allais la voir disparaître, j'étais si jeune et si sensible à cette beauté moi-même que si je n'avais été défendue par 2 ombres qui s'interposaient entre nous, celle de et celle de Salucce, je n'aurais pu résister à son éblouissement et j'aurais mis mon cœur sous ses pieds comme ces feuilles tombées de l'arbre qu'elle foulait en marchant. Elle semblait elle-même s'en apercevoir et rechercher volontairement, plutôt que fuir, les rencontres de regards ou de paroles qui auraient pu amener un aveu ou une explosion de nos 2 cœurs. Une pénible incertitude pesait sur notre entretien. Je la ramenai jusque dans la cour de la maison, où l'ombre des platanes et des murs augmentait la nuit, sans avoir éclairci d'un mot ce qui se passait entre elle et moi. Je devais partir dans la nuit. Elle s'arrêta et se retourna vers moi avant de monter les premières marches du perron. « Est-ce que vous ne reviendrez jamais à Rome ?» me dit-elle d'une voix qui tremblait d'avance de ce qu'on allait lui répondre. « Non, répondis-je, je ne suis pas libre de mes pas. « Et où serez-vous cet hiver ?»« À Paris, » lui dis-je. Alors, me prenant pour la dernière fois la main, « Eh bien, moi, je suis libre, » dit-elle, « et j'y serai. » Je compris l'accent de résolution inflexible et passionnée avec lequel elle avait prononcé cette espèce de serment intérieur de nous revoir. « Non, lui répondis-je, n'y venez jamais. « J'irai, » dit-elle. La soirée fut triste et silencieuse dans le salon de la comtesse Livia, comme entre amis la veille d'une séparation éternelle. L'hiver suivant, je reçus à Paris un billet de Regina qui m'apprenait qu'elle venait d'arriver avec sa grand-mère, qu'elles étaient descendues sous la conduite d'un de ses oncles de la jeune princesse à l'hôtel de. Nous nous revîmes à Paris.